Il est très exactement 18h sur France Culture. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Bridgestone douche les derniers espoirs de ses salariés de Béthune. Le géant japonais du pneumatique quitte bel et bien le site. Nous analyserons la situation avec Annabelle Grelier. Jean Castex fait un point d'étape sur le reconfinement. Il est trop tôt pour desserrer la bride, dit le Premier ministre. Nous entendrons le désespoir d'un commerçant au bord du dépôt de bilan. Parmi les victimes du Covid-19, la cinéaste Nelly Kaplan. Son premier film de fiction, La fiancée du pirate, avait fait scandale en 1969 avant de devenir un film culte. Nous lui rendrons hommage avec Antoine Guillot. Les mines antipersonnelles ont encore fait des milliers de victimes l'an dernier. L'ONG Handicap International appelle les États à faire pression sur les belligérants pour qu'ils arrêtent d'utiliser ces armes. C'est fini pour l'usine Bridgestone de Béthune. Le géant japonais du pneumatique s'en va. C'est la ministre de l'Industrie qui l'a annoncé à la mi-journée, à l'issue d'une réunion avec la direction de Bridgestone, des élus et les syndicats. Réunion qui devait permettre de faire le point sur le projet proposé par Bercy de sauvetage du site. Depuis l'annonce, mi-septembre, de la fermeture de l'usine, le gouvernement tentait de convaincre le groupe d'explorer des scénarios alternatifs. Ça n'a pas marché, Annabelle Grelier. Alors, nous n'avons pas Annabelle Grelier, nous allons donc d'abord écouter Xavier Bertrand, le président ex-LR du Conseil régional des Hauts-de-France. Après cette annonce du départ de Bridgestone, pas question pour lui de s'avouer vaincu. On écoute Xavier Bertrand.
L'avenir sur ce site, ça ne s'écrira pas avec Bridgestone. Et puis d'une certaine façon, vu leur attitude, ces dernières années, ces derniers mois, il n'y a quand même plus personne qui leur fait confiance. Mais maintenant, ils ne vont pas partir comme ça. Ils ne vont pas partir comme ça parce qu'on est en France. On ne jette pas les salariés comme des Kleenex. Et donc aujourd'hui, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils mettent le maximum pour que les salariés puissent individuellement rebondir et pour que ce territoire puisse rebondir.
On vous a retrouvé, Annabelle Grelier, donc ce soir, échec des discussions avec le japonais Bridgestone.
Oui, le principal scénario proposé par le cabinet Accenture, qui avait été mandaté par le gouvernement, prévoyait le maintien partiel de l'activité en gardant 450 à 550 salariés sur les 860 actuels. Il s'agissait d'un projet de montée en gamme de la production avec l'objectif de gagner 25 à 40% de productivité, car vous savez qu'à l'usine de Béthune, aujourd'hui, ne sont produits que des pneus de petit calibre qui ont du mal à rivaliser avec la concurrence mondiale. Mais il fallait pour ce nouveau projet investir 100 millions d'euros dans de nouvelles machines. Même si l'État était prêt à en prendre une partie à sa charge, le projet n'a pas été jugé viable ni réaliste par l'équipementier japonais. Il jette donc l'éponge. Dans un communiqué, il assure avoir identifié 10 opportunités, dont 4 projets déjà bien définis dans la recherche d'un repreneur. Et il se dit même prêt à céder, le cas échéant, le site à un concurrent.
Et alors, il faut bien le dire, Annabelle, ce dossier a une importante dimension politique.
Oui, c'est toujours le même problème de la désindustrialisation, Goodyear, Continental, Whirlpool et bien d'autres avant. Tous les partis d'opposition du Parti communiste au Rassemblement national y vont de leurs déclarations ce soir. L'impuissance de l'État face aux actionnaires pour le communiste Fabien Roussel, l'échec d'un État sans vision stratégique pour Marine Le Pen, la France insoumise demande le remboursement des aides d'État, Nicolas Dupont-Aignan accuse l'Europe et la main-d'œuvre de l'Est, les Républicains et les socialistes participent également au concert pendant que le gouvernement essaie d'éteindre le feu de la colère, tant bien que mal. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, parle d'un site de batterie électrique, de batterie automobile électrique qui pourrait venir s'installer sur ce site.
Merci Annabelle Grelier. Jean Castex fait un point d'étape sur le reconfinement. Le chef du gouvernement constate un petit ralentissement de la propagation de l'épidémie de Covid-19, mais il est selon lui trop tôt pour relâcher les efforts. Les contrôles pourraient d'ailleurs être renforcés. Nous reviendrons en fin de journal sur les annonces du Premier ministre, s'il y en a. Parmi les mesures que réclament certains parlementaires, il y a l'obligation pour les malades et les cas contacts de s'isoler autant que nécessaire à leur domicile. Alors, difficile lorsqu'on vit seul. Le groupe Agir à l'Assemblée nationale propose donc qu'une solidarité s'organise autour des plus démunis. Mais pour les autres, qui s'aventurent dehors sans motif valable et propagent la maladie, il faudrait les sanctionner avec de lourdes amendes, Cécilia Arbona.
S'il est impossible de vérifier qu'un malade ou un cas contact s'enferme dans une pièce de sa maison ou de son appartement pour éviter de contaminer son entourage, on peut contraindre les personnes contagieuses à rester chez elles, selon Olivier Becht, député du Haut-Rhin, président du groupe Agir Ensemble.
Il faut tout faire pour que ce confinement soit le dernier. Ce que nous proposons, c'est que les personnes soient contraintes de s'isoler, mais également de mobiliser le service civique pour que l'isolement des personnes malades ou contagieuses, qu'elles soient d'ailleurs en hôtel ou à domicile, puisse se faire avec une aide pour justement faire les courses, apporter les médicaments. C'est finalement la nation entière qui doit se mobiliser en mode combat.
Pour que l'auto-isolement soit un succès, l'élu alsacien compte sur la fermeté du gouvernement.
Il faut que les amendes soient très élevé. Nous proposons 10 000 euros, mais si vous voulez, c'est le cas au Royaume-Uni où c'est 11 000 euros. En Allemagne, c'est de l'ordre de 5 000 euros. En Suisse, c'est également 10 000 euros. En Italie, c'est 3 mois de prison. En Espagne, c'est jusqu'à 600 000 euros. Au Canada, 480 000 dollars.
La bonne amende, conclut Olivier Becht, c'est celle qui fait tellement mal au porte-monnaie qu'on n'a plus du tout envie de mettre le nez dehors.
Cécilia Arbona, maintenir les restrictions sanitaires ne sera pas sans conséquences. Elles sont terribles pour Jacques Vuillermet. À 59 ans, il est propriétaire de 24 magasins de vêtements situés dans la région Rhône-Alpes. Il a 130 salariés. Si une décision de réouverture n'est pas prise d'ici décembre, il dit « on est mort ». Jacques Vuillermet.
Le mois de décembre, c'est le plus gros mois de l'année pour nous. Donc là, si on enlève le mois de novembre et le mois de décembre, on est mort. Parce que plus je tape dans ma trésorerie, moins j'aurai d'argent pour payer mon été qui va commencer à être livré au mois de janvier. Même si je décale à livraison février, il me faudra l'argent pour payer d'avance, cash, 6 mois de marchandises parce que l'été, je vais le solder en juillet et en août. Donc il me faut que j'ai de l'argent. Donc il me faut de la trésorerie pour payer la marchandise. Et le fournisseur ne fait pas de cadeau. S'il sent que vous êtes pas bien, il vous demande un paiement cash. Moi, j'ai 5 millions d'euros de stock. Si je ne les vends pas, j'en fais quoi? Je peux pas payer mon été. J'explose en vol. Et c'est la boîte complète qui explose. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de savoir, tant que je sais pas la date des soldes, si je suis rouvert en décembre, combien de faire ce chiffre d'affaires, tout ça. J'achète un an à l'avance. Là, j'ai commencé mes achats d'hiver 2021. Tout à l'avance. Pas modifiable. Et ferme. Mais nous, on mange 350 000 euros par mois de charges fixes. 3 mois, c'est 1 100 000. J'ai perdu, j'ai brûlé 1 100 000 de cash. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Et c'est pas la faute de mes achats, c'est pas la faute de ma gestion de ma boîte, c'est pas la faute de mes salariés, c'est pas la faute de mes clients qui sont au rendez-vous. C'est l'État qui a imposé une fermeture sanitaire, mais moi j'y suis pour rien. Et on me dit, c'est un dégât collatéral. Voilà, vous allez mourir, tant pis pour vous.
Jacques Vuillermet, un propriétaire de magasin de vêtements désespéré, il répondait à Anne-Laure Jumet. Plusieurs dirigeants mondiaux jugent indispensable d'assurer un accès universel aux futurs vaccins et traitements contre le Covid-19. Au Forum de Paris pour la paix, organisé à l'Élysée, le Français Emmanuel Macron, le Sénégalais Macky Sall, le Canadien Trudeau, entre autres, plaident en faveur d'un accès juste et équitable aux vaccins. Cela passerait notamment par le mécanisme COVAX d'Arachlegel.
Oui, ça pourrait passer par ce mécanisme qui est coordonné par l'OMS, un mécanisme ingénieux né pendant la pandémie qui a déjà fédéré 156 pays, dont une soixantaine d'États riches. Ce sont eux qui sont censés mettre la main au portefeuille et préacheter des millions de doses de vaccins via COVAX, garantissant ainsi aux grandes firmes qui produisent ces vaccins qu'elles vont bien avoir des acheteurs. Cela doit théoriquement inciter les gros laboratoires à augmenter leur capacité de production et donc permettre aux pays moins fortunés d'être sûrs d'avoir ensuite des stocks disponible. Ce mécanisme joue donc sur la solidarité, mais l'Union européenne, par exemple, qui a déjà mis presque 500 millions d'euros dans ce portefeuille, a dit que ce ne serait pas pour financer des vaccins pour sa propre population, mais pour donner ses doses aux pays moins avancés. Or, cela s'apparente à de la charité et ça contrevient en quelque sorte au principe initial de solidarité. Mais de toute façon, ce principe a déjà été battu en brèche, puisque plusieurs États sont sortis, entre guillemets, du mécanisme COVAX pour acheter séparément en bilatéral des millions de doses pour des milliards de dollars, notamment l'administration Trump, mais pas seulement. D'après un calcul, Aurélie, de l'ONG Oxfam, les pays riches qui représentent 13% de la population ont déjà préempté la moitié des doses de vaccins qui seront produites.
Et puis il n'y a pas que la question de l'achat, Tara, il y a aussi celle de la production.
Oui, effectivement, parce que cette production à l'échelle mondiale va devoir être colossale. Pfizer, qui est le premier à avoir annoncé son vaccin, parle de monter jusqu'à la fabrication d'un milliard de doses, mais ça ne suffira jamais à vacciner toute la planète. COVAX espère pouvoir garantir 2 milliards de doses aux pays pauvres. Voilà pourquoi les ONG, qui savent que ce sera insuffisant, et des États comme la Norvège et l'Inde, demandent à ce qu'on fasse une exception en termes de propriété intellectuelle et en termes de brevets, et qu'on autorise un transfert de technologie des laboratoires qui ont inventé, fabriqué ces futurs vaccins Covid vers des pays moins développés pour qu'eux puissent aussi les produire. Et ça, pour l'instant, Aurélie, personne ne veut en parler à l'échelle mondiale.
Tara Schlegel, si un vaccin contre le Covid était déployé en France, seule la moitié des Français accepteraient de se faire vacciner. C'est ce qu'indique un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Cette réticence est entretenue par de fausses informations relayées par les réseaux sociaux. Hier, un documentaire avec de gros guillemets a été mis en ligne. Hold Up entend dénoncer les mensonges et manipulations autour de la pandémie de Covid-19. Il va jusqu'à évoquer une conspiration mondiale, un plan pour soumettre l'humanité. Hold Up, qui a bénéficié d'un financement participatif de 200 000 euros et qui touche un très large public, a tous les ingrédients d'un film complotiste, Benoît Grossin.
Hold Up, présenté comme un film citoyen, est essentiellement un documentaire complotiste parmi de nombreux autres en ligne et avec une structure assez classique pour ce genre de production, selon Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialiste des cultures numériques et membre de l'Observatoire du conspirationnisme.
C'est un véritable millefeuille argumentatif où des séries d'intervenants viennent exposer sans aucune contradiction leurs perceptions, leurs ressentis, voire essayent d'argumenter avec des éléments qui ne sont pas sourcés, qui ne sont pas vérifiés la plupart du temps. Et ce perlage de témoignages pourrait créer une sorte de confusion, de doute sur effectivement tout ce qui est avancé, tout ce qu'on peut entendre dans les médias ou de la part du gouvernement.
Les médias accusés d'avoir tous le même discours de peur sur la pandémie et le gouvernement dénoncé pour ses incohérences, notamment sur la question du port des masques. Le documentaire, en mettant en avant ses critiques bien connues, se transforme pour Tristan Mendès France en véritable entreprise de désinformation.
Qui expliquerait en gros qu'il y a un complot international d'une élite mondiale associée pourquoi pas à du Big Pharma, à des lobbies pharmaceutiques contre les citoyens et notamment contre les pauvres.
Tristan Mendès France ajoute que des personnalités, certaines malgré elles, ont participé à la défense de cette thèse.
Un ancien ministre, on a M. Douste Blasi, qui visiblement s'est fait avoir, et Monique Pinson-Charlot, qui est une sociologue qui était très reconnue, parle d'une volonté des élites de commettre une extermination de masse contre les pauvres. Elle invoque le nazisme, qui est un point Godwin. C'est un des témoignages qui est les plus déroutants.
Et en donnant la parole à de nombreux complotistes, ayant déjà une forte audience en ligne, Tristan Mendès France constate que le documentaire est en train d'essaimer au-delà des cercles traditionnels d'extrémistes. Avec l'explosion virale dont il bénéficie, Hold Up a déjà été vu par plus d'un million de personnes en France.
Benoît Grossin. Elle avait contracté le Covid-19 dans une maison de repos à Genève. La cinéaste Nelly Kaplan est morte ce matin. Elle avait 89 ans. Pour nous parler de la réalisatrice, nous avons sollicité Antoine Guillot, bien sûr, le producteur de l'émission Plan Large. Bonsoir Antoine.
Aurélie.
Quand on pense à Nelly Kaplan, on a tout de suite en tête La fiancée du pirate. C'était son premier film de fiction et il a fait sensation, Antoine Guillot.
Oui, il a même fait scandale, Aurélie, à tel point que Nelly Kaplan a souvent été réduite à ce film. Il faut dire que c'était une vraie flibustière, que cette Argentine très fantasque et haute en couleur, née rebelle comme d'autres naissent coiffées, comme elle l'avait écrit, qui était arrivée en France à 21 ans en 1952, est devenue presque immédiatement l'assistante du grand cinéaste Abel Gance, dont elle défendra la mémoire toute sa vie, devenue proche aussi du mouvement surréaliste. Elle était l'intime d'André Breton et de Philippe Soupeau, elle dont la lecture à 14 ans des Champs magnétiques avait bouleversé la vie. Après des films d'art dont un à la source lui vaudra déjà une bataille avec la censure parce qu'on y voyait les dessins érotiques d'André Masson, c'est donc bien avec cette fiancée du pirate, sa Bernadette Lafont en majesté et tout en gouaille, sa chanson de Barbara, Moi je me balance, ce brûlot féministe et règlement de compte contre l'espèce testiculaire, comme disait Kaplan, l'histoire d'une sorcière des temps modernes qui brûle les inquisiteurs au lieu de se faire brûler, que la cinéaste va éclater en 1969. Ça lui vaudra une interdiction moins de 18 ans pour apologie du vice, mais oui, et un immense succès commercial. Merci les censeurs.
Mais évidemment, Antoine, la carrière de Nelly Kaplan ne se résume pas à La fiancée du pirate.
Oui, même si le reste de la filmographie de la cinéaste est moins connue, elle est à redécouvrir. Ses films ont été réédités il y a 2 ans en DVD, en version restaurée, comme Le très loufoque Papa les petits bateaux, du Tex Avery En chair et en os, une sorte de satire du film noir, mais aussi du film social, mais aussi du film érotique. Et puis érotique toujours, Néa, d'après Emmanuel Arsan, qui fera cette fois scandale à Genève en 1976 pour une scène d'éducation sexuelle tournée au collège Calvin. Et puis c'était aussi une romancière de talent dont la voix était bien connue des auditeurs de France Culture, puisqu'elle était un pilier de l'émission de Bertrand Jérôme et Françoise Trossard, Les Papous dans la tête.
Bien sûr, merci Antoine. On vous retrouve dans Plan Large samedi à 14h. La mort également du dessinateur de presse et caricaturiste Piem. Il s'était fait connaître du grand public en participant aux émissions télévisées Le Petit Rapporteur ou La Lorgnette dans les années 70 avec Jacques Martin. Il dessinait notamment pour Le Figaro. Piem venait d'avoir 97 ans. Va-t-on vers l'apaisement en Côte d'Ivoire ? Hier après-midi, le président Alassane Ouattara a rencontré l'ex-chef de l'État Henri Conan Bédié. Les deux rivaux disent avoir brisé la glace après 2 ans sans se parler. Une rencontre qui intervient 10 jours après la présidentielle boycottée par l'opposition et à l'issue de laquelle Alassane Ouattara a été réélu pour un 3e mandat très controversé. La correspondance d'Amandine Réau à Abidjan.
La rencontre s'est déroulée à l'hôtel du Golfe, tout un symbole. C'est dans cet hôtel qu'Alassane Ouattara et Henri Conan Bédié, alors fraîchement alliés, s'étaient installés pendant 4 mois lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Face à la pression internationale, les deux hommes ont finalement accepté de se rencontrer. Objectif, mettre fin aux tensions politiques et communautaires qui ont fait 85 morts depuis le mois d'août. Un apaisement affiché par Alassane Ouattara à l'issue de l'entretien.
Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens.
Nous avons brisé le mur de glace, a déclaré Henri Conan Bédié. Tous les deux veulent œuvrer
pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant.
Demande préalable à la rencontre, le blocus autour de la résidence de Bédié a été levé. En revanche, regrette l'opposition dans un communiqué, pas de réponse favorable à la levée des poursuites judiciaires contre une 20aine de ses membres, dont l'ancien candidat Pascal Affine-Guessant. Accusés de sédition, ils ont été arrêtés alors qu'ils allaient annoncer la création d'un gouvernement parallèle. Alors Ouattara et Bédié, rivaux depuis 30 ans, peuvent-ils vraiment se réconcilier après la rupture de leur alliance en 2018? Ils ont en tout cas annoncé d'autres rendez-vous, les sujets de désaccords sont nombreux. Et pour éviter de diviser l'opposition, Bédié a promis une réunion demain avec les autres partis.
Un naufrage au large des côtes de la Libye a fait au moins 74 morts. 47 survivants ont été amenés à terre par les gardes-côtes libyens et des pêcheurs. Les recherches de victimes se poursuivent. Depuis le début de l'année, au moins 900 personnes se sont noyées en Méditerranée en essayant d'atteindre les côtes européennes. Les mines antipersonnelles ont encore tué 5584 civils l'an passé. Des chiffres quasi inchangés depuis 5 ans, constate avec amertume Handicap International. Et ce, même si 80% des États ont déjà accepté de se débarrasser de cette arme qualifiée d'inhumaine. L'Observatoire des mines vient de publier son rapport 2020. Il souligne que la quasi-totalité des victimes sont des civils, près de la moitié des enfants. On retrouve Jérémy Lanche à Genève.
On retrouve des victimes de mines antipersonnelles et d'engins explosifs improvisés dans une 50aine de pays, la plupart du temps dans des pays en guerre, comme l'Afghanistan et la Syrie, deux États qui concentrent à eux seuls près de la moitié des victimes, loin devant la Birmanie, le Mali et l'Ukraine. La Birmanie, qui est aujourd'hui le seul État dont l'armée utilise de façon avérée des mines antipersonnelles, Stephen Goose est le directeur de la division armes à Human Rights Watch.
Les forces gouvernementales birmanes le font depuis 22 ans, au moins depuis que l'Observatoire des mines publie son rapport, donc ce n'est pas vraiment une surprise pour nous. Il y a également des allégations selon lesquelles la Corée du Nord aurait récemment utilisé des mines antipersonnelles. Des groupes armés le feraient aussi dans au moins une douzaine de pays. Nous devons vérifier ces allégations, mais leur nombre si important est certainement très préoccupant.
Les chiffres pour 2020 ne sont pas encore connus, mais la tendance devrait être la même, ne serait-ce qu'à cause de la pandémie de Covid-19. Elle a retardé, voire empêché, certaines opérations de déminage, notamment en Bosnie-Herzégovine, au Tchad et au Vietnam. Une lueur d'espoir tout de même, elle est à chercher du côté des États-Unis qui ont annoncé au début de l'année revenir sur l'interdiction de l'utilisation des mines par leur armée. Joe Biden s'était tout de suite engagé à maintenir cette interdiction s'il était élu à la présidence.
Jérémy Lanche à Genève pour France Culture. Avant de conclure ce journal, nous revenons un instant sur la conférence de presse donnée en ce moment par Jean Castex au sujet de l'épidémie de coronavirus. Le Premier ministre garde le cap. Le confinement se poursuit selon les mêmes modalités pendant les 15 jours à venir. On écoute Jean Castex.
Nous constatons que l'évolution du nombre de nouvelles contaminations s'est ralentie depuis une semaine. Si l'on raisonne en moyenne sur 7 jours, nous observons une baisse de l'ordre de 16%. Cette évolution doit être interprétée de manière positive, mais prudente. Positive car elle traduit une inflexion, et c'est ce que nous espérions. Positive car cette tendance, si elle se confirme, indiquerait que ce qu'on appelle le taux de reproduction du virus, le fameux R, est passé en dessous de 1 pour se situer entre 0,8 et 0,9. Mais prudente, car cette tendance est récente, donc fragile, et ne peut produire des résultats que si elle se confirme dans la durée. Prudente, enfin, car nous ne voyons pas encore l'impact de cette évolution sur les hospitalisations, alors que c'est fondamentalement notre objectif.
Le Premier ministre Jean Castex. Demain vendredi, le temps sera couvert et humide sur la moitié nord. Ciel nuageux sur le pourtour méditerranéen. Le soleil fera de belles apparitions sur le sud-ouest. Au petit matin, il fera de 5 à 11 degrés. Les maximales atteindront 14 à 17 degrés au nord, 16 à 22 au sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.